Bonjour et bienvenue pour le Bulletin Azur épisode 6. Nous sommes le 3 avril 2012 pour cet enregistrement. Et donc le Bulletin Azur pour référence, pour rappel, a pour URL de référence akms/lebulletinazur. Les annonces sont faites sur Twitter, sur le Twitter de Windows Azure France, @WindowsAzureFR. Et vous pouvez nous écrire également @Benjguin,
Pierre
@PierreCou
Coux,
et @Tom
Thomas,
Comté,
qui n'est pas là aujourd'hui,
qui
mais...
n'est pas là aujourd'hui, mais que nous retrouverons bientôt. Le bulletin Azure est maintenant une série dans Channel 9. En fait, qu'est-ce que ça change concrètement? C'est qu'on peut le trouver plus facilement, je vais vous montrer. Et puis également, on peut s'y abonner par flux RSS pour trouver les différents liens. Donc, par exemple, si on va à channel9.ms, on arrive ici. Ensuite, on fait Browse, hop, et Series. Et dans les séries, soit on le retrouve dans les lettres, soit c'est ici, en ce moment, c'est le premier, donc le bulletin Azure. Et on a ici la possibilité de s'y abonner, donc avec les différents médias possibles. Ensuite, aujourd'hui, nous nous inspirons des épisodes de Cloud Cover Show numéro 71, 72, 73 et...
74. Oui, il y a eu une petite, il y a une petite halte juste au départ de Steve Marks et
Oui.
puis c'est reparti d'un seul coup
Oui.
et on a un torrent de nouveaux épisodes qui apparaissent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, ils en ont eu à peu près un par semaine et comme ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré, ça fait quatre. Donc on y reviendra. Dans les actualités locales, donc les vidéos des Tech Days sont disponibles?
Oui, donc on ne l'avait pas annoncé la dernière fois parce qu'on ne le savait pas, mais elles venaient juste d'être publiées. Donc
Voilà.
maintenant, vous les avez à disposition et avec tous les parcours, avec l'intégralité des contenus.
En cherchant avec Azure en général, AZURE,
Oui, et
on trouve quelques
puis
vidéos intéressantes.
vous avez des sélections sur deux ou trois blogs qui sont en train d'apparaître et qui montrent ça.
Exactement. Donc l'adresse mstechdays.fr. Quelques nouvelles annoncées sur le blog de Windows Azure France, donc blogsmsdn.com/WindowsAzureFrance. Il y a pas mal de live meetings en ce moment, donc ils sont tous annoncés sur ce blog-là. On peut les retrouver également enregistrés en allant sur le hub social de Windows Azure France sur AKMS, Azure Hub. Et puis, on a les portes ouvertes.
Oui, donc qui ont lieu dans une dizaine de jours.
Voilà.
Et on va vous permettre de passer 2 heures avec nous,
Oui.
concrètement. Donc l'idée, c'est si vous caressez l'idée d'aller sur Azure, vous êtes au bord, vous hésitez, etc., venez nous en parler. On a beaucoup de pratiques, d'expériences, de projets concrets, et on est capable en 2 heures de discuter avec vous en disant c'est facile et compliqué, c'est facile et immédiat, c'est facile et il y a un véritable intérêt.
C'est simple et facile, c'est
Voilà. Ou
facile.
alors ça ne sert à rien, n'y allez pas. Dans votre cas, c'est bizarre.
Exactement. Et puis, dernier point, un lab qui permet de déployer et d'explorer Windows Azure sans avoir forcément l'environnement de développement sur son poste. Donc, on en fera sans doute d'autres comme ça. Là, pour l'instant, sur ce premier, alors ça se passe de la façon suivante. Hop, que je retrouve. Voilà, donc que je retrouve ce lab.
Oui.
En fait, on a une première vidéo qui montre comment on fait un package avec Visual Studio 2010. Donc ça, c'est une vidéo de 2 minutes à peu près. Et une deuxième vidéo ensuite. Donc on a le PKG, le fichier de config et puis également le certificat qui va permettre de chiffrer le mot de passe. Bref, peu importe. Donc les trois fichiers nécessaires pour le déploiement à partir du portail.
Oui.
Et ensuite, on a une vidéo qui montre comment déployer et puis comment jouer avec l'application, comment changer le nombre d'instances, comment aller se connecter en remote desktop pour voir comment a été déployé ce qui a été créé. Donc c'est une application qui fait rien de spécial si ce n'est se déployer et voir un peu.
Comment
Ça,
découvrir?
voilà, ça permet d'explorer. Donc si vous avez envie de jouer avec Windows Azure sans avoir l'environnement de développement, eh bien bienvenue sur ce lab. Les actus Windows Azure. Donc là, on a plein d'actus, mais on va les faire assez vite, puisqu'ensuite, on veut laisser du temps pour une démonstration que tu pourras nous faire sur PHP par la
Oui,
suite.
plein de démonstrations sur PHP.
Voilà. Les épisodes. Donc, les épisodes Cloud Cover Show, on en a parlé, on va revenir sur les différents épisodes les uns après les autres. Le premier, Cloud9 IDE pour déployer Windows Azure.
Oui, donc ça fait partie des IDE alternatifs. Alors alternatif à deux titres parce qu'il est à la fois dans le cloud, c'est un IDE remote qui se projette sur un navigateur HTML, CSS, JavaScript, et alternatif parce que ce n'est pas un langage très classique, c'est un IDE qui a été conçu principalement pour Node.js,
Oui.
mais donc il a été enrichi et un petit peu bricolé pour permettre le déploiement direct sur Windows Azure.
Exactement. Et donc là, les personnes là qui sont ici sont en fait les gens de Cloud9 IDE en fait. Ensuite, on a un deuxième épisode qui sont les nouveaux outils pour Windows Identity Foundation et ACS avec le fameux.
Vittorio Bertocci,
Voilà.
toujours le même accent, toujours les mêmes cheveux.
Exactement. Et qui montre en fait les simplifications. Donc c'est toujours une bonne nouvelle quand les choses se simplifient. Dans Dev 11, en fait, donc on a la possibilité de connecter une application à ACS pour récupérer une identité de façon beaucoup plus simple. Ça vaut le coup d'aller regarder cet épisode pour voir comment est-ce que ça marche. Ensuite, on a un épisode de Nick Harris sur les push notifications pour Windows 8 et
Oui.
plus généralement le toolkit.
Donc, alors il y a deux choses derrière ça, hein. Il y a la partie Azure et la partie Windows 8. Donc, on va en voir de plus en plus apparaître des applications qui vont s'appuyer sur Azure pour pousser vers des apps métro dans Windows 8.
Ouais.
Et du coup, on a un toolkit pour Azure tourné vers Windows 8 qui donne plein d'informations, qui donne la plupart des solutions techniques. Et comme il est assez riche, et ben on l'explore comme ça, petit bout par petit bout.
Exactement. Et si vous avez vu l'équivalent pour Windows Phone, en fait, il y a quand même de grandes similarités entre les deux. Et puis un épisode de 74 sur deux choses, Wasabi. Et d'autre part, Endpoint Protection pour Windows Azure. Donc Wasabi, c'est effectivement, on en a parlé déjà une ou deux fois. Donc là, il y a effectivement une personne de Patterns and Practices qui
T'explique,
vient
hein.
présenter dans le détail comment est-ce que ça marche, qui fait une démonstration et tout. Et puis Endpoint Protection, c'est en gros un forefront Endpoint Protection, donc pour protéger une machine Windows, qui est donc un anti-malware, hein, antivirus, etc., qui s'installe sur des rôles Windows Azure. Donc pour l'instant c'est une CTP, mais il en est question dans cet épisode de 74 de Cloud Cover Show, nos grands cousins américains. Ensuite, on revient sur la partie Node.js avec le support de Service Bus dans un NPM. Non, c'est en PHP, pardon.
Non, non, non. Alors,
Non, en
NPM,
Node.js.
c'est le package manager de Node.
Oui, pardon,
Et
c'est
donc,
Node.js.
c'est l'équivalent du gem de Ruby. C'est
Oui.
l'équivalent de nos propres outils. C'est le Nuget, en fait, version Node.js. Et donc, on a maintenant un package pour le service bus.
Voilà, dans l'équivalent de la librairie Azure pour
Le
Node.
Nuget, oui.
Voilà, c'est ce. Très bien. Ensuite, les prix sont encore plus avantageux.
Oui, alors on a l'impression qu'à chaque nouvel épisode, on vous annonce encore une baisse de prix.
Pourquoi pas?
On va
Pourquoi
pas s'en plaindre, hein.
pas?
Donc le plus intéressant aujourd'hui qu'on a à vous présenter, c'est les baisses sur les instances extra small.
Voilà.
Parce que jusqu'ici, on partait du principe que trois instances extra small faisaient une instance small. Et la
Non,
maison de.
c'est une pour deux, je crois, je sais plus.
C'était une pour
C'était une pour
trois.
un, et là c'est une pour
Et
six.
maintenant, c'est une pour 6.
Ouais.
Donc, le coût de l'extra small est 6 fois moindre que celui de la small. Et ça permet d'avoir des fermes de serveurs avec n'importe quelle offre d'essai. C'est impressionnant. On déploie 18 bécanes, 20 bécanes. Enfin, c'est très bien.
Mais des toutes petites, mais plein. Et puis également, le Windows Azure Storage a un peu baissé également. Enfin, c'est 12% apparemment. Un élément important aussi, comme on est dans des versions bêta sur Windows 8, etc., il est important et qu'on a l'installation side by side de Visual Studio 2010, de Visual Studio 11 qui sont nécessaires pour faire fonctionner à la fois Windows Azure et une appli métro Windows 8. Du coup, l'installation n'est pas complètement automatisée, ça se passe bien, mais il faut suivre quand même des procédures. Donc, ces procédures en fait sont décrites sur le site de windowsazure.com
Oui.
et vous retrouverez ce lien dans les show notes.
Voilà, donc juste en deux mots là-dessus, c'est simplement qu'il y a un prérequis qui est déjà installé sous Windows 8 qui bloque l'installeur normal dans VS 2010. Donc le pas à pas qui est là indique comment installer de façon détaillée toutes les composantes, sauf celle qui est déjà installée, et donc arriver à une installation complète à la fois de VS 2010 et VS 11.
Exactement. Ensuite, il y a également le Windows Azure Toolkit dont on a parlé, qui existait pour la Developer Preview, c'est-à-dire pour la conférence Build qui a eu lieu en septembre 2011. Oui. Et ce Toolkit a été mis à jour pour la Consumer Preview, c'est-à-dire la dernière version en date de Windows 8 client. Et donc voilà, donc on a tout qui est à jour. Mise à jour des Windows Azure PowerShell Commandlet.
Oui, donc moi je suis grand fan parce que je commence à me faire de plus en plus de PowerShell, on verra ça tout à l'heure.
Ouais, c'est vraiment sympa, plus on en fait, plus...
ouais, les syntaxes restent un peu bizarres pour les développeurs .NET, mais on s'y fait. Et donc il y a arrivée massive de nouvelles fonctionnalités dans ces commandlets qui sont en provenance, et ben, une fois n'est pas coutume, du SDK qu'on a fait pour Node.js. Ouais. Le SDK est basé sur des commandlets et donc certaines de ces commandlets ont été reprises et réintégrées au package standard, entre
plus
guillemets.
La capacité à réutiliser aussi, à rentrer en fait les informations sur le compte une seule fois et pas avoir les rentrées ouais. À chaque commandlet. Donc ça simplifie encore l'utilisation de ces commandlets. Donc ça c'est la page de référence des prix. Donc pour mémoire, en fait, vous allez sur windowsazure.com, ensuite pricing, et dans le pricing vous avez d'abord une calculette assez simple, et dessous vous avez un lien avec le détail de tous les prix. Et donc ça c'est la page de référence si vous avez un doute sur combien coûte telle ou telle partie de Windows Azure. Et comme ça change souvent, c'est cette page-là qui est régulièrement mise à jour.
Voilà, faut que ça change à la baisse. Hein. Vous n'aurez jamais de mauvaise surprise.
C'est ça. La capacité à déplacer une base SQL Azure d'un abonnement à un autre.
Oui, c'est un des endroits qui fait le plus mal lorsque les développeurs travaillent dans leur coin. Autant c'est très facile de repackager toute la partie déploiement classique Azure, autant pour les données, ben on a plein de questions. Est-ce qu'on fait du DACPAC? Est-ce qu'on fait du ceci? Est-ce qu'on fait du cela? Donc maintenant, on a des solutions efficaces et élégantes pour faire ces transferts depuis les environnements développeurs qui sont sur un abonnement MSDN, par exemple, jusqu'au développement d'entreprise et donc le déploiement qui est géré par l'entreprise et pas par le développeur.
Pour aller vers la prod, par exemple.
Exactement.
SQL Azure et Trust Services, donc ça c'est un nouveau service qui est proposé dans les labs de SQL Azure, donc en CTP pour l'instant, et qui permet, en fait le schéma est ici, qui permet d'avoir du chiffrement des données dans SQL Azure avec un chiffrement qui se fait dans le cloud avec, donc il y a un service qui permet de faire ça, qui s'appelle le Trust Services. Donc vous pouvez aller voir ça à partir de ce blog post. On va arriver sur la partie PHP.
Oui.
Donc d'abord, ce blog post qui explique un peu une migration de Drupal de la stack LAMP.
Oui.
Vers Windows Azure.
Alors il est intéressant ce blog post à plusieurs titres. Donc le contexte, hein, c'est simplement un site qui a un pic de trafic par an, mais un vrai, et qui était initialement déployé et développé sous un LAMP complet, c'est-à-dire avec un MySQL et un Linux. Les choses notables là-dessus que je voudrais vous raconter, il y en a deux. La première, c'est pour les gens qui connaissent Drupal, c'est l'utilisation de Drush, qui veut dire Drupal Shell. Donc c'est un shell orienté Drupal, pour automatiser une partie des tâches de déploiement. Le deuxième élément qui est très intéressant, il y a un petit module dans Drupal qui s'appelle PortableDB, qui a été fait par Damien Tournoux, un Français et un contributeur majeur à Drupal, et qui permet d'extraire les contenus Drupal d'une base A et de les réimporter dans une base B. A et B étant de nature différente si on le souhaite. Donc ça sert à plein de tâches différentes.
C'est-à-dire de nature différente
On peut passer de MySQL à PostgreSQL, de PostgreSQL à SQLite, de SQLite à SQL Azure.
D'accord.
Et donc en l'occurrence, ça a été utilisé pour prendre le site existant et récupérer la structure et la rebasculer vers SQL Azure. Ce qui est moins simple que ce qu'on pense au premier abord parce que les syntaxes sont différentes, les requêtes sont différentes, les structures de base sont différentes, et tout ça est pris en compte par ce petit module.
C'est une sorte d'SQL Azure Migration Wizard, mais plus générique, quoi.
Plus spécifique Drupal, disons.
Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Oui, parce que c'est pour la base de Drupal uniquement.
Oui.
Très bien. Et puis, on a également un blog post d'un gars sympa.
Oui, donc juste prévenir que la couche PDO qui permet de se connecter à SQL Server depuis PHP est en migration. Donc depuis quelques semaines, même pas d'ailleurs, on a la sortie de PHP 5.4 et la sortie de PDO 3.0 pour SQL Server. Alors pourquoi je vous en touche un mot ici? Parce que c'est un tout petit peu compliqué de trouver les dépendances nécessaires si vous voulez le faire tourner sur Azure. Donc je vous ai mis effectivement sur blog.cousy.com le lien vers l'explication détaillée fournie par le groupe produit chez Microsoft et puis les dépendances entre 264 bits qui sont incroyablement difficile à trouver. Notez au passage que les dépendances changent entre la 2 et la 3, donc vous trouverez toujours le package 2.0.1, si ma mémoire est bonne, à disposition sur la zone de download.
D'accord, très bien. Nous voici à la partie démo.
Ouais.
Donc en fait,
Tiens,
Pierre
passe-moi.
va nous montrer comment est-ce qu'on peut déployer une application PHP vers Windows Azure, d'une part avec le SDK officiel et puis d'autre part avec des moyens plus manuels, disons.
Ouais, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment ça fonctionne. Donc en deux mots, aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications PHP qui sont déployées sur Azure. Moi, au quotidien, plus de la moitié des applications que je déploie sur Azure sont des applications PHP. Et donc, on a vu apparaître tout un ensemble de techniques pour faire ça qui sont de plus en plus sophistiquées. Et je pense que c'est bon de s'arrêter un petit peu et de voir ce qu'on a à disposition pour le faire. Donc je vais commencer par la Pravda. La ligne du parti pour le déploiement PHP sur Azure, c'est ce que vous trouvez sur www.azure.com et dans l'onglet Développer, on vous envoie vers le SDK que vous voyez à l'écran. Ce SDK,
Donc
il
sur
est
CodePlex.
sur CodePlex aujourd'hui, mais il est documenté de façon plus détaillée.
D'accord.
Et je voudrais juste vous guider un tout petit peu sur sa première prise en main qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et ensuite, on ira voir plus en détail comment les choses fonctionnent. Donc, vous avez besoin de deux choses pour le faire fonctionner. Il vous faut le SDK en lui-même, qui est un simple download. Pas de dépendance, enfin, vous l'extrayez n'importe où sur votre disque. Et donc, moi, dans mon cas, j'ai dû l'extraire dans, vous voyez ici, j'ai un répertoire SDK. Et si je jette un coup d'œil à ce qui est à l'intérieur, et ben voilà, il y a un répertoire bin, un peu de doc, etc., etc. Le deuxième élément dont vous avez besoin, c'est d'un runtime PHP. Parce que ce SDK est écrit en PHP. Donc
D'accord.
vous allez simplement sur windows.php.net et vous allez récupérer la version 5.4 qui est toute fraîche. Voilà, vous avez un zip ici, vous prenez ce zip, vous l'extrayez, et puis je reviens ici et je l'ai mis tout bêtement dans mon répertoire PHP, pardon pour le LS. Trop de lignes de commande ces temps-ci. Voilà, et donc là, on a l'intégralité des éléments. Il nous reste un petit détail à faire, c'est donner à votre environnement toutes les billes sur tout ça. Donc vous allez en gros faire quelque chose du genre. Vous allez reprendre votre path existant et vous allez lui rajouter PHP démo SDK et on va prendre le bin. Et puis, et on va également lui donner la possibilité d'aller.
Oui, tu mets pas le PageRail.system.
Voilà, d'aller utiliser le runtime en lui-même, voilà. Et donc
D'accord.
maintenant, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à ma disposition. Donc, on va dire ici test. Alors, qu'est-ce que ça fait, scaffolder ici? Alors.
Alors, scaffolder en français, c'est échafaudage.
Voilà,
Enfin,
c'est
c'est
pas
échafaudé, en
create, c'est
fait.
run. Voilà. Donc, scaffolder, ça va me créer un. Comment appeler ça? Un template dans lequel je vais pouvoir écrire une application PHP prête pour Azure. Donc vous voyez ici, je l'ai créé, donc je vous remontre ici, voilà, slash, enfin, tiret out égale test, donc je dis crée-moi ça dans le répertoire test, et du coup ce répertoire, on va aller jeter un œil dedans, et vous allez découvrir toute la structure qui permet de faire une application PHP
PHP.
classique, dont ici un répertoire web. Dans ce répertoire web,
Qu'on
vous allez
retrouvera sur IIS à la fin, je pense, j'imagine.
exactement,
Ouais.
vous allez tout bêtement poser votre application PHP.
D'accord.
Voilà, donc rien de très compliqué.
Donc là,
Et
c'est destiné à recevoir plein de fichiers .php, par exemple,
voilà.
etc.
Alors, par défaut, il n'y a pas grand-chose. Si vous allez fouiner plus dans le SDK, vous allez trouver des scaffolders spécialisés. Donc, ils sont des archives au format PHP, des archives au format PHAR, PHAR, et qui contiennent des applications prêtes à l'emploi, qui contiennent déjà du Drupal ou du WordPress à l'heure actuelle. Et donc il y en a de plus en plus qui apparaissent, où ça vous donne une base de travail plus complète qu'un environnement vide.
D'accord.
Une fois que vous avez fait ça, vous avez un environnement où vous pouvez poser votre application. Maintenant, il faut réussir à l'exécuter et à la déployer.
Ouais.
Donc ça repose sur un utilitaire qui s'appelle le packager. Et donc le packager, prend trois paramètres. Donc on va dire test, ça c'est son point de départ.
Ouais.
Ensuite, il nous faut l'endroit d'arrivée. Je vais l'appeler publish, par exemple. Et ensuite, je crois que ça s'appelle moins dev. Et si je marque à false, ça veut dire que je ne veux pas un environnement de développement. Donc si je ne me suis pas trompé dans mes petits éléments, voilà, package ici, il va me créer... bougez pas, j'ai mes antisèches qui sont là. Ah. Il va me créer, c'est bien, ah, si c'est create. Voilà, j'explique,
j'interroge
create en fait. Et run entre les deux. Ouais. Parce que dans ma tête, ça devrait être run pour l'un, create pour l'autre, mais c'est pas très grave. Et donc très maintenant, grave. J'ai le packaging de tous les assets qui va me fournir. Voilà, on va aller voir dans publish. Et vous voyez là, des choses très familières. Donc le CSPKG d'accord. qui contient tout le site et tous les assets, et puis le CSCFG qui contient les paramètres.
Donc ce que j'ai aperçu, c'est que dans le répertoire que tu avais dans ton Explorer, là, tu as un CSDEF et un CSConfig,
oui.
et qu'après avoir fait ton package create, du coup, tu te retrouves avec ton CSPKG et
oui.
ton CSConfig. Donc effectivement, on retrouve bien les mêmes principes de préparation d'un package Azure classique. Quoi.
Exactement. Donc, voilà. Donc ça, c'est la technique officielle, c'est la technique supportée sur laquelle il y a de la documentation qui commence à arriver et puis des scaffolders qui commencent à arriver. On n'utilise pas systématiquement ça pour des raisons toutes bêtes. C'est d'abord qu'il est arrivé très tard et que du coup, on avait eu problème avant et donc on a dû trouver d'autres oui. solutions pour packager. Et l'autre élément, c'est qu'il repose systématiquement sur la dernière version de PHP. Puisqu'il l'installe à la volée au moment du déploiement. Et il y a des moments où on veut figer sa version de PHP parce qu'on veut contrôler exactement les extensions qu'on veut mettre, jouer avec ses paramètres, son php.ini, etc.
Et pas
etc.
jouer à la roulette russe à chaque déploiement.
Voilà. Donc, du coup, depuis mai dernier, à peu près, ça fera bientôt un an, j'ai un petit framework de déploiement que je maintiens pour PHP spécifiquement sur Azure et qui permet d'avoir un plus grand contrôle sur les différents éléments et de ne pas reposer sur des mises à jour aléatoires.
Là, dans la version Scaffolder, on télécharge quand même la partie runtime PHP, donc elle est figée, non ?
Non, elle est installée à la volée sur Azure. On l'installe,
ah
sur,
oui,
sa
on l'installe sur sa machine.
Parce que tout est écrit en PHP.
D'accord. Oui, d'accord. Donc c'est juste pour avoir les scripts PHP, etc. qui fonctionnent, mais ensuite sur Azure, elle est re-téléchargée.
Voilà.
D'accord.
Ce qui a des bons et des mauvais côtés. Le très ouais. bon côté, c'est que si jamais il y a un pépin de sécurité, par exemple, et un patch qui est apporté à PHP, ben, c'est immédiatement pris en compte.
Ouais.
Le mauvais côté, c'est qu'on peut avoir du re-recettage à faire entre deux versions de PHP.
D'accord, donc là on est, pour faire l'équivalent avec l'OS, on est forcément en mode étoile, quoi. On n'a pas le choix d'une version
exactement.
Particulière.
Exactement. Du coup,
compris.
On a travaillé sur une autre façon de travailler. Donc ça s'appelle le squelette, je suis désolé, je n'ai pas trouvé le nom à l'époque très, très imaginatif. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. On va jeter un petit coup d'œil au contenu du squelette lorsqu'on le. Alors c'est un zip qui pour l'instant vit sur mon blog.
Ouais.
Et ce zip se compose de quelques répertoires que vous avez sous les yeux et d'un package.bat qui fait tout le travail.
D'accord.
Donc ces répertoires, il y a dedans deux répertoires importants à connaître si on veut rien comprendre et trois autres qui ont du sens si on veut explorer un petit peu. Donc on va commencer par, vous voulez pas comprendre comment marche Azure, vous en fichez, vous avez du PHP que vous voulez sur Azure. Mm-hmm. Vous mettez votre application dans Your PHP App. Mm-hmm. Vous double-cliquez sur package.bat,
ouais.
et au bout d'un certain temps, que je devrais renommer en CMD, ça ferait plus moderne, et au bout d'un certain temps, vous avez un répertoire deploy what's in there qui contient le package et la configuration.
Et ça, pour rappel, depuis le portail, hop, on upload ces deux fichiers-là.
Exactement, vous basculez dans le portail que j'ai dû mettre ici. Et une fois sur ce portail-là, vous allez simplement faire un nouveau service et vous pouvez ici parcourir et donner là le CSPKG.
Tout ce qui est what's in there. CSDEF.
Voilà, tout ce qui est le what's in there est situé ici.
D'accord, très bien.
Donc ça, c'est la première partie. Après, si on veut comprendre un peu plus comment ça marche, on va revenir un peu dans les autres répertoires et explorer un petit peu. Donc, de quoi ça se compose en déploiement Azure ? Ça se compose très concrètement d'un squelette de déploiement qui est le squelette Azure, d'un squelette web qui est le web role, c'est-à-dire la partie qui répondra sur HTTP.
Celle qui a IIS.
Voilà, celle qui possède IIS. Et puis la troisième, eh bien, c'est le PHP en lui-même, le runtime PHP que je veux utiliser. Eh bien, ça tombe bien, j'ai trois projets qui correspondent exactement à ces trois composantes.
D'accord.
Alors, le service, c'est lui qui indique le mode global de déploiement. Celui-là, j'ai directement ici une solution qui permet de le découvrir et de le manipuler. Donc si j'ouvre cette solution
avec Visual Studio 2010. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors pourquoi c'est intéressant? Vous n'avez pas besoin de Visual Studio 2010, hein, le truc fonctionne, je vous ai fait la démo, l'intégralité de la démo tout à l'heure. Mais par exemple, vous pouvez peut-être modifier ici des choses en utilisant les wizards de Visual Studio. Par exemple aujourd'hui, moi je suis sur des extra small par défaut, j'en profite, hein, si c'est pour le prix d'une, j'allais pas me gêner.
Ouais.
Donc vous pouvez ici changer cette taille-là. Vous pouvez également remonter d'un cran ici et dans la partie package, vous pouvez jouer ici sur les settings de login et de mot de passe d'accès aux machines. Donc celui que vous allez voir sur mon blog quand vous verrez ce webcast ne contient pas de settings RDP parce qu'il faut un certificat et que ça m'ennuie de vous donner un certificat que vous allez tous utiliser à l'identique. Donc si vous voulez vous activer ça, vous ouvrez le projet avec Visual Studio 2010 ou Visual Studio Express avec le SDK. Vous cliquez Enable Remote Desktop.
Express, c'est gratuit en fait.
Express, c'est gratuit et le SDK est gratuit. Mmh. Et du coup, et puis vous faites Package et puis c'est fini. Votre système, maintenant, il aura login et mot de passe pour accéder aux machines.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est un deuxième élément qu'on peut manipuler. Et si vous avez besoin de mettre des paramètres supplémentaires, etc., le CSDF et le CSCFG sont directement disponibles là-dedans aussi. Donc toute la partie packaging dans Azure, elle est prise en compte par ça. Mmh. Ensuite, le site web qui va monter en lui-même sur Azure, il est là. Sauf que moi, dedans, j'ai rien du tout. Si vous regardez, j'ai un site web absolument vide. J'ai un répertoire BIN qui est légèrement prometteur. Il y a marqué install.php.cmd. Et si je vais regarder... Pas du tout.
D'accord.
Le vrai fichier, il est dans le runtime PHP. Donc c'est vraiment juste un squelette. Pourquoi je l'ai laissé? Parce que vous pouvez prendre la main lors du déploiement en C# si vous le souhaitez. Donc entre les tâches de démarrage pour les gens qui connaissent Azure et la déclaration dans le portail du load balancer.
Le install.php.cmd pour bien le install.php.cmd pour bien comprendre, il est écrasé.
Oui oui.
Quoi qu'il arrive, même si on écrit quelque chose dedans.
Ah oui, c'est un placeholder.
D'accord. C'est juste un placeholder. Okay.
Voilà. Si vous y touchez, vous en mordrez les doigts, il sera écrasé.
D'accord. On peut y toucher alors.
Voilà. Et donc ici, on a le point d'entrée, les points d'entrée, si on a besoin de réagir à des changements de configuration, si on a besoin de faire quelque chose au moment où la machine va être redémarrée, si on a besoin de faire quelque chose au moment où la machine est démarrée. Donc j'ai laissé pour vous permettre de personnaliser un petit peu votre machine si vous en avez besoin.
Si en mode vraiment avancé, on pourrait aussi ajouter des startup tasks?
Oui, elles sont là-haut. Mais en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Si on va regarder le CSDF ici. La startup task install.php.cmd s'exécute et on peut en rajouter plein.
Donc je peux en ajouter d'autres et je mets à côté du install.php.cmd d'autres qui, elles, ne seront pas écrasées?
Oui.
D'accord.
Oui.
Très bien.
C'est aussi bête que ça.
Ouais.
Enfin, il y a vraiment tous les éléments en pièces détachées les uns à côté des autres. Et le dernier, c'est le runtime, c'est lui qui va vous intéresser. Donc dedans, il y a le véritable install.php.cmd qui n'est pas très très compliqué.
Ça, c'est l'écrasant.
C'est l'écrasant. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous savez que par défaut, PHP n'est pas installé sur IIS. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'installe. Et comment est-ce qu'on l'installe? On utilise appcmd, qui est l'utilitaire de pilotage d'IIS, et dans lequel on dit, vous voyez, il y a du bricolage de configuration. Je ne rentre pas dans le détail, mais si vous voulez le faire, vous pourrez voir ça. Et puis, vous avez tout en bas la possibilité de faire votre propre bricolage. C'est-à-dire, ici, si j'ai besoin de créer des répertoires avec des droits spécifiques, par exemple des répertoires temporaires de upload, download, etc., eh bien, j'ai à ma disposition, voyez, là, public police, public upload content, c'est ce qu'utilise en général Zen Framework. Mm-hmm. Donc, si j'ai besoin de les créer et de donner des droits d'écriture dessus, je peux le faire par ce biais-là.
Très bien.
Voilà, donc ça c'est la petite mécanique qui vous installe PHP sur IIS. Et il nous reste à aller fouiner dans quelque chose de très classique. Ça c'est mon installation globale de PHP. Donc là j'ai choisi un PHP 5.3.6, parce qu'on va dire que mon application est validée, recettée avec.
D'accord.
Et donc j'ai la main à la fois sur celui-là, sur les extensions, où j'ai minimisé ce que je déployais. À titre d'information, hein, c'est le strict minimum pour faire tourner Drupal. Donc si vous avez envie de le faire tourner, voilà ce qu'il vous faut comme extension. Et enfin, le php.ini qui est là. Pareil, voilà un php.ini minimaliste. Attention, la seule chose qui est codée en dur ici, vous voyez, le date.timezone égale Europe Dublin, j'ai préparé le data center sur lequel je voulais me déployer. Donc attention à ça, quand vous déployez sur Data Center, pensez à modifier ça pour que vos paramètres...
Et comment est-ce qu'on retrouve le nom de la chaîne de caractères si je veux déployer en Asie ou autre chose? Parce que ce n'est pas le nom classique de Windows Azure, ça.
Non, c'est les time zones standardisées.
Donc, ah oui, d'accord.
Ça se trouve un peu partout.
D'accord. Ah voilà. Oui, c'est pas ça ce qui va décider de l'endroit où on déploie, puisque de toute façon,
non,
on va
pas
le faire
du tout.
Par
c'est
le
juste pour informer PHP que sa date doit être synchronisée par rapport à celle du système.
D'accord.
Voilà, et donc une fois qu'on a tout ça, eh ben, on récupère ici... Donc,
je... Attends, pardon, juste pour être oui. sûr de bien comprendre, le... parce que le Windows Azure, un host Windows Azure donne une adresse en UTC.
Exactement.
Et donc là, c'est pour dire que c'est UTC. C'est-à-dire, si je déploie aux US, oui. je vais laisser Europe Dublin parce que c'est aussi en UTC, ou est-ce que je vais mettre une time zone qui correspond aux US?
On met la time zone qui correspond à la zone géographique sur laquelle on déploie.
D'accord.
Pour que PHP lui-même retrouve ses petits entre les date time fournies par le système, par les autres composants, etc. etc.
D'accord.
Voilà, PHP okay. a besoin de savoir où il est.
D'accord.
Et du coup, une fois qu'on a... Alors donc le déploiement, je l'ai déjà fait hein, pour gagner du temps. Et je vais juste vous montrer du coup à quoi ça correspond. Donc j'ai pris un slot que j'ai appelé démo PHP, dans lequel j'ai un environnement de production qui est ici. Donc si je vais dessus, il n'y a rien de magique. Voilà mon PHP info. Mmh. Juste attirer votre attention là-dessus. Là, sur le fichier de configuration qui a été chargé, c'est E2. Parce que par défaut, c'est dans E2 qu'on pose les applications et les déploiements.
Maintenant, pas toujours.
Si jamais, typiquement, si jamais on fait une mise à jour, et là vous voyez, je suis sur l'autre environnement, celui de staging, de pré-prod, et vous voyez là-haut le GUID. Et sur celui-là, j'ai fait une mise à jour. Parce qu'en fait, j'ai modifié mon code et j'ai réuploadé le package. Et ouais. du coup, je suis plus sur E2. Si vous voyez le fichier de configuration, il est sur F2. Bon, ces petites différences, elles sont prises en main par ce squelette. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans la toute première version de ce packager, j'avais installé FTP. Et je laissais aux gens la possibilité d'uploader leur code en FTP directement, en me disant, c'est plus facile pour eux, c'est plus rapide, ils font leur mise à jour à chaud, ils les testent, etc. D'accord. etc. Je suis revenu là-dessus parce que les gens, du coup, modifiaient directement sur Azure et oubliaient de refaire le package.
Ouais.
Et donc, lors d'un passage de patch sur la machine, on perdait leur mise à jour.
Et on revenait à la version précédente.
Voilà. Donc, j'ai viré la connectique FTP. Vous la trouverez dans la version 1.4 si vous la voulez, mais je l'ai enlevée pour éviter cette erreur-là. Et la technique que je vous recommande si vous voulez développer pour Azure en PHP, c'est simplement de tourner en local sur votre machine en vous connectant à SQL Azure au lieu de SQL Server, MySQL ou autre, et en utilisant les API de storage si vous avez des contenus qui ne sont pas physiquement sur
le disque. Et sur du storage de prod aussi, on peut tester depuis un environnement local vers du storage de prod.
Voilà, et du coup, quand vous ferez vos déploiements, vous n'aurez jamais de mauvaise surprise. Si vous avez besoin de travailler sur des données temporaires, travaillez donc sur des environnements de pré-prod, que ce soit ouais. pour le storage et pour les data, et vous avez la garantie, comme vous maîtrisez à la fois le binaire PHP et tous les composants de l'autre côté, que votre développement local sera identique au développement sur Azure.
Très bien.
Voilà, donc ça évolue. Alors une dernière chose, si vous voulez manipuler des certificats, donc ça c'est toujours une petite galère pour les gens, y a un petit problème tout bête, c'est que lorsqu'on déploie son application, on a besoin, je vais revenir ici dans mon deploy WebSynder, je vais vous montrer le mien, et dans le mien, et je vous montre ici fièrement mon mot de passe, il est là, vous voyez, il est encrypted password, et sa valeur est un truc à rallonge.
J'aime bien le username.
Oui, je ne savais pas quoi mettre juste avant l'épisode, donc j'ai pris Joe. Donc, ce que vous trouverez dans le package qui ne sert à rien, sauf si vous avez vous-même un fichier PFX, c'est un petit, il est là, un petit script PowerShell. Et ce script PowerShell, on va juste aller le regarder. Je suis au bon endroit, oui. Alors on va juste déjà y jeter un œil. Il fait rien de magique. Il dit simplement, si vous avez à votre disposition un certificat au format PFX,
ouais.
donc c'est le format qu'accepte Azure lorsque vous voulez installer un certificat sur les machines, et que vous avez son mot de passe, et ben ce petit script vous permet de dire, voilà mon certificat, voilà le mot de passe du certificat, voilà le mot de passe que je veux chiffrer, débrouille-toi.
Ouais.
Et du coup, lorsque vous l'exécutez, ça ressemble à ça. Donc démo encrypt.ps1, et il vous donne l'empreinte du certificat à reporter dans le fichier de configuration à l'endroit qui est ici, thumbprint.
D'accord.
Et le mot de passe ici à reporter dans le encrypted password qui est là.
D'accord. Et il a pris le mot de passe où lui ? Remonte la ligne de commande.
Là, un mot de passe chiffré, deux points.
Et le mot de passe non chiffré, il l'a pris où?
Je le donne ici, c'est ABC, point d'exclamation, ah oui, 33, oui. C'est Roger, oui, tout mis là-dedans.
Ok. Très bien. Juste un PFX, si on veut en générer un depuis un environnement de développement. En gros, on peut passer par exemple par IIS. Depuis IIS, on crée un certificat auto-signé. Et ensuite, on peut le récupérer avec certmgr.msc, par exemple, ou depuis la console MMC, en rajoutant des composants affichables, certificat local.
Oui.
Et dans le stockage, si on exporte le certificat, on obtient un point fixe.
Alors, deux techniques.
Ça peut être ça.
La première, si vous avez Visual Studio, dans les wizards, ils vous proposent de créer des certificats et de mettre des noms. Donc vous créez le certificat, ensuite vous prenez effectivement certificat, enfin vous allez dans la console de management, la MMC, des certificats, il y a une option de recherche.
Oui.
Et vous cherchez votre certificat, vous allez le retrouver, il est dans personnel, root. Et de là, clic droit et vous pouvez l'exporter. Et vous avez le PFX.
Oui.
Ça c'est la première solution si vous avez Visual Studio. Si vous avez juste IIS, vous pouvez dans IIS 7.5, j'en suis sûr, et probablement 7, créer un certificat auto-signé.
C'est ça.
Ce certificat, il ira dans la partie machine ce coup-ci et pas dans la partie user, mais toujours avec la même console pour le certificat. Vous fouinez, vous le trouvez, un clic droit, vous l'exportez en PFX. Voilà les deux façons les plus simples de créer.
Oui, tu as raison, CertMGR, c'est pour l'utilisateur.
Oui.
Donc,
oui.
Effectivement, MMC, composant affichable, rajouter les certificats pour le local computer. Et, enfin, pour computer, ensuite, il propose local. Et après, on peut trouver, effectivement, voilà, dans personnel, le certificat en question qu'on peut exporter avec sa clé privée. Parce que pour un PFX, il faut exporter avec la clé privée.
On va l'arrêter. Donc, une vidéo de 3 minutes par Benjamin pour la prochaine fois là-dessus.
Exact.
Donc voilà, voilà en deux mots. Alors je voudrais juste vous dire qu'il y a d'autres façons. Notamment, vous trouverez des extensions pour WebMatrix qui font du déploiement Azure et qui permettent de faire tourner du PHP. Mais on ne va pas tout voir aujourd'hui. Donc simplement, le SDK ou bien cette façon très manuelle, mais qui vous donne la main sur chacune des pièces du Pulse très facilement.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette démo assez complète, cette double démo. Et puis, eh bien donc, on se retrouve la prochaine fois, dans un mois à peu près. Peut-être aurons-nous un témoignage d'ici là, je ne sais pas. En tout cas, l'épisode 7, c'est dans à peu près un mois. On le fera le 1er mai.
Ça me semble bien ça.
Très bien, au revoir, merci.
Au revoir à tous.